10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et surtout le retour de l'imam Abdelali Mamoun. L'islam au présent, c'est jusqu'à 11h le samedi. Bonjour, bienvenue, bonjour imam Abdelali.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonne année, bonne santé, meilleurs voeux à toi Philippe, à toute l'équipe de Beurre FM et à toutes nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent avec beaucoup d'assiduement et fidélité. Tous les samedis matins de 10h à 11h. Je suis ravi d'être avec toi encore une fois, Philippe.
Bon, vous êtes revenu alors de la Omra, imam
Abdelali.
Voilà,
c'est ça. Tout à fait. C'était magnifique. Donc
c'est
franchement.
C'est le moment d'y aller. Hein,
là, je suis motivé.
Pour
là,
tous ceux qui veulent y aller, c'est le moment.
Hein. Machallah, c'était merveilleux. Franchement, j'ai passé des moments très agréables avec une belle, un bon groupe avec qui on a assuré l'intégralité de ce qui était, ce qui nous incombait. Il y a des nouvelles contraintes d'ordre sanitaire telles que les demandes d'autorisation pour accéder à la mosquée. Il faut avoir une application, plutôt il y en a même deux applications. Il faut Tawakkalna plus une application qui s'appelle Etamarna qu'on doit intégrer. Donc il est indispensable d'avoir un portable, smartphone, obligatoirement. Et en arrivant là-bas, il faut obligatoirement avoir une puce saoudienne. Dès qu'on arrive à l'aéroport, je vous le conseille, ceux qui vont partir. Et dès que vous arrivez là-bas, tout de suite, avec votre nouveau numéro de téléphone saoudien, vous vous inscrivez dans les deux applications Tawakkalna d'abord. Ça s'appelle Tawakkalna, qui vous permet d'être pisté et tracé pendant tout le voyage, pendant tout votre séjour là-bas. Et c'est obligatoire. Hein. Et puis aussi, à Tamarna, pour pouvoir accéder à la mosquée, il faut forcément avoir une demande d'accès qui est faite, qui vous est proposée sous forme de créneau de 3 heures. Ben, vous pouvez rester plus longtemps, mais c'est pendant ce créneau de 3 heures que vous pouvez rentrer. Mais dès que vous êtes à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte là-dessus.
Mais vous pouvez rentrer que pendant les 3 heures.
Vous pouvez, le passage. Le passage, c'est pendant les 3 heures où vous êtes inscrit. Mais dès que vous êtes dedans, vous pouvez rester autant que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte. Pour ce qui est de la Mecque, vous ne pouvez pas, par contre, vous aller à l'intérieur de la place. C'est-à-dire celle qui est découverte, la partie découverte de la Kaaba, autour, tout proche de la Kaaba. Cet emplacement est réservé à ceux qui accomplissent la Umrah. C'est-à-dire ceux qui sont en état de sacralisation. C'est-à-dire que si vous vous mettez en état de sacralisation, on vous laissera entrer dans la sahan, c'est-à-dire l'assiette de la mosquée sainte, c'est-à-dire le Masjid al-Haram à côté de la Kaaba. Si vous n'êtes pas en état de sacralisation, vous ne pourrez pas y accéder. Vous serez obligé de rester dans les parties couvertes, dans les parties, les étages, etc.
Il y a très peu de monde, hein.
Voilà, c'est ça. En fin de compte, ils sont en train de filtrer pour éviter l'affluence autour de la Kaaba. Et réserver, je dis bien, l'accès à la Kaaba et autour de la Kaaba, l'assiette de la Kaaba, aux gens qui accomplissent le rituel de la Umrah. Ce qui fait que, comme dans les photos que je t'ai envoyées, Philippe, j'en ai envoyé à pas mal de monde, on peut voir qu'il y a très peu de gens qui tournent autour de la Kaaba dans la journée, à part entre le Maghreb et l'Isha, là, il y a plus d'affluence, mais ça reste encore largement light, quoi. Il n'y a pas de bousculade, on n'est pas compressé les uns contre les autres. Vous marchez vraiment à l'aise, tranquille, vraiment, mashallah, vous faites une Umrah très très bien. Même entre le Safa et le Marwa, pareil, c'est très vide, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc ce qu'on invite les gens, c'est profiter, quand ils vont là-bas, d'accomplir beaucoup de Umrah pour pouvoir accéder à l'assiette. Ceux qui veulent accomplir une autre Umrah ou des circumambulations autour de la Kaaba, c'est dans le Tawaf, je leur conseille d'utiliser les voitures électriques. Puisque le trajet est beaucoup plus long, parce que vous le faites en haut, là, à l'étage. Donc, quand c'est à l'étage, le tour, il fait presque 1 km, donc ça fait beaucoup. Donc, il est préférable de le faire en voiture électrique. C'est autorisé, puisque le prophète a accompli le tawaf sur un chameau. Donc, sur un chameau, c'est autorisé, donc sur un animal, du moins un moyen de transport rudimentaire qui étaient les animaux à l'époque, pourquoi pas une voiture électrique aujourd'hui. Ce sont des petites voitures qui vont à peu près à 6 km/h. C'est très très bien, c'est très sécurisé, il n'y a pas de danger. Ils ont même leur propre itinéraire, leur propre piste, si vous voulez, pour tourner autour de la Kaaba. Il n'y a personne à part eux quand vous êtes dans cet endroit. Ce qui fait que franchement, vous faites, c'est cool, vraiment, mashallah. Vraiment, vous profitez des lieux saints, mais à fond. Vraiment, c'est très spirituel. Vous n'êtes pas sous la contrainte de la foule, la population, la promiscuité, la bousculade, le fait qu'on vous écrase les pieds, tout ça. Non, ça, c'est fini. Maintenant, il y a une distanciation qui est largement respectée. Alhamdoulilah, c'est super.
Bon, voilà. Est-ce que, compte tenu du fait qu'il n'y a pas grand monde, ça a fait monter les prix de la Omra?
Alors, c'est pas, le prix de la Omra n'est pas lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Au contraire. Normalement, s'il n'y a pas beaucoup de monde,
ça devrait plus cher.
Non, ça devrait coûter moins cher. On est bien d'accord.
Faut bien qu'il s'y retrouve.
Oui, mais on est bien d'accord que ça devrait coûter moins cher. Puisque si l'offre est plus importante que la demande, les prix devraient baisser. Et les prix ont baissé. Mais ils ont augmenté. Pourquoi ? Parce que c'est les règles qui ont changé. Notamment le fait que avant, à 1 500 €, vous étiez en chambre quadruple, c'est-à-dire à chambre de 4 personnes à Mecca et Al-Madina.
Donc maintenant, ils ont limité...
Voilà, c'est 2 personnes. C'est chambre double. Vous n'avez plus le droit d'être à plus de 2 personnes, sauf si vous êtes les membres d'une même famille. Par exemple, si vous êtes un père, une mère avec des enfants, vous avez le droit d'avoir une chambre triple ou quadruple. Mais si c'est pas la même famille, c'est des personnes différentes, vous devez vous limiter à 2 personnes par chambre. Mmh. Voilà, donc ce qui fait que même avant, hein, quand vous demandiez une chambre double, c'était le prix
c'était
qu'on a
aujourd'hui. C'était déjà plus cher, oui.
C'était déjà plus cher. Mmh. Donc on est autour de 2 000 € aujourd'hui pour un produit convenable, c'est-à-dire un 5 étoiles en face de l'Haram, en face de la mosquée, sous les tours par exemple, dans les hôtels sous le
Mecca Clock.
Voilà, c'est ça, la Clock Tower. Eh bien, il y a tous ces hôtels 5 étoiles qui proposent des produits très confortables, qui répond véritablement à un besoin vital d'avoir de la propreté, d'avoir d'hygiène, d'avoir de la place et d'avoir des repas on va dire très très variés et très confortables, ce qui correspond aux besoins des musulmans qui vivent en Europe.
Bien, alors c'est le c'est le moment où, vous savez, où on prend des bonnes résolutions, Imam Abdelali, en début d'année. Qu'est-ce que vous nous conseillez, tiens, Imam Abdelali, de prendre comme bonne résolution ?
Eh bien, écoutez, moi, ce que je dirais à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui ont l'habitude de profiter de mes interventions, d'abord, de continuer à être assidus sur Beurre FM, écouter Beurre FM, notamment l'émission du samedi matin, pour vous éclairer et comprendre un peu mieux votre religion, ce que je propose gracieusement et en même temps pour la radio Beurre FM et pour les auditeurs de Beurre FM.
Alors, l'imam Abdelali, en début d'année, il conseille de l'écouter plus.
Voilà, c'est une sacrée résolution. Voilà, c'est bien, pourquoi pas.
C'est bien.
Pourquoi pas.
Charité alors, bien ordonnée commence par soi-même, comme
voilà,
on dit.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, bon. Il faut nous rejoindre. Il faut, pourquoi pas, appeler l'imam pour lui donner des conseils.
Voilà.
Moi aussi, bien. Je reçois. C'est pas je donne seulement. Là, j'ai une grande famille qui s'appelle Beurre FM. Et dans une famille, on est ce qu'on appelle le miroir de son frère. On se regarde à travers son miroir et son frère se regarde à travers nous. Donc le croyant est invité d'abord à essayer de améliorer ses relations avec son créateur, parce qu'il doit savoir et connaître mieux son créateur, et notamment qu'il est l'omnipotent, celui qui est capable de tout faire et de changer toute situation. C'est le sens de la formule qui est un trésor, comme dit le prophète alayhi salat wa salam, un trésor du paradis, kanzu min kunuz il janna. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de changement ni de force si ce n'est celle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute situation change et toute situation est basée sur la force et l'énergie que celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cherchons cette force, cherchons cette dynamique, cet enthousiasme, cet engouement, cette fougue qui doit être en nous et qui nous permet de nous engager mieux dans la vie pour réussir mieux dans la vie. Et je répète que les échecs ne sont pas forcément une mauvaise chose pour nous. C'est parfois au contraire un apprentissage, une manière d'améliorer, de chercher à être meilleur dans la vie. Et ça, c'est l'essentiel. Donc améliorer sa relation avec Dieu, chercher la droiture. Alors quand je dis chercher la droiture, c'est continuer à persévérer dans ce qui a été compris à travers les deux jalons du croyant, celui qui est à droite et celui qui est à gauche, dans son chemin qui le mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran et la Sunna. Tous ceux qui vous disent non, il n'y a pas de Sunna, ou non, je vais vous proposer autre chose que la Sunna, ce sont des charlatans, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui veulent ou qui cherchent à vous égarer en utilisant autre chose que le Coran et la Sunna. La seule voie du croyant qui le permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se rattacher et d'appliquer à la lettre les enseignements du Coran et de la Sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à travers cela, on réalise la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah qui est le fait de al-amal bi tanzil, c'est le fait d'agir en conformité avec ce qui a été révélé à notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le croyant dans ce bas monde est invité à prendre des résolutions, des engagements. Il doit s'engager à, par exemple, améliorer certaines de ses attitudes, de son comportement. Se dire, voilà, qu'est-ce qui va pas? Faire un auto-examen, ce qu'on appelle une autocritique de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Quels sont ses défauts? Et notamment de chercher ces défauts-là pour essayer de les améliorer, pour essayer de les modifier, pour essayer de parfaire ses relations avec la création, avec son entourage, mais aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de petits défauts. Tous les défauts sont bons à corriger et à rectifier, car un petit défaut parfois est plus visible que beaucoup d'autres gros défauts. Donc ne sous-estimez pas des choses mauvaises que vous pouvez faire et vous êtes en mesure de corriger, que vous pouvez corriger, alhamdoulillah. Donc je vous invite à essayer de travailler cela en cette nouvelle année. Je sais que c'est une nouvelle année chrétienne. Alors, les gens vont se poser, ouais, mais nous on n'est pas des chrétiens, on n'a rien à voir avec. D'abord, moi je pense que non, c'est aujourd'hui ce calendrier est un calendrier qui est universel, et de la même manière que le calendrier musulman est aussi un calendrier universel. Pour moi, le temps appartient à Dieu. Il n'y a pas de problème à souhaiter une bonne année, nos meilleurs vœux à notre entourage, qu'il soit musulman ou pas. N'hésitez pas. Vous souhaitez à consolider les liens de fraternité, consolider les liens d'amour que le croyant doit alimenter, doit cultiver avec son entourage et répandre le salam, répandre la paix. Comme le disait le prophète, afshu salam abaynakum, répandez le salam et la paix entre vous. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de vous et vous permettra d'accéder à son vaste paradis. Parce que vous aurez, par ce salam, cultivé l'amour entre les humains et ne pas limiter et réduire votre relation aux musulmans, à la communauté des croyants. Le musulman est une miséricorde pour les mondes, comme l'a été notre prophète avant nous. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes, pour les communautés, pour les humains dans leur globalité. Arrêtons d'être réducteurs et de penser que la miséricorde de Dieu ne se limite qu'aux croyants et à la communauté des croyants et ne souhaiter que le bien que pour les croyants et que Dieu guérisse que les croyants et qu'il donne la gloire à que les croyants, etc., etc. C'est ce raisonnement communautaire qui encourage le repli communautaire doit disparaître de nos esprits. Tous les humains qui nous entourent sont nos frères en Dieu, sont nos frères en humanité. Ce sont des fils d'Adam. Nous leur devons l'affection, la compassion, l'empathie, l'amour et la fraternité. Voilà le message que le prophète alayhi salat wa salam a transmis à ses adeptes, et non pas de limiter vos prières, vos invocations, vos souhaits de bien à seulement la communauté des croyants. Le musulman, je répète, est le frère de tous ses voisins, tout son entourage, tous ceux qu'il fréquente. Il fait preuve de bonté pieuse, il fait preuve de générosité. La seule catégorie de gens auxquels vous n'avez pas le droit de bonté pieuse, c'est ceux qui vous combattent, qui vous menacent, qui menacent votre intégrité. Le Coran est clair, il dit la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Dieu ne vous interdit pas à l'égard de ceux qui ne vous ont pas combattu. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, et ne vous ont pas chassé de vos demeures. An tabarruhum, que vous leur fassiez preuve de bonté pieuse. Wa tuqsitu ilayhim, et que vous soyez juste avec eux. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Dieu aime les gens qui sont justes et qui font preuve de justice. Inna ma yanhaakum, Dieu par contre vous interdit. An alladhina qatalukum, ceux qui vous ont combattu. Wa akhrajukum min diyarikum, et vous ont chassé de vos demeures. antawallahum, hein, que vous fassiez preuve de d'alliance ou d'allégeance à leur égard. Wa man yatawallahum fa ulaika humud zalimun, ceux qui font alliance avec eux sont certes des gens injustes. Donc là il est clair, à partir du moment où nous sommes dans une société apaisée où règne la paix et la sécurité, nous n'avons pas le droit de déclarer et de créer une tension, une fracture sociale entre nous et notre environnement. J'appelle toute la communauté musulmane, la composante musulmane de France, à faire une et un avec l'ensemble de la communauté nationale. Voilà, et je dirais même qu'il n'y a pas de communauté à part la communauté nationale. Il y a des composantes religieuses, il n'y a qu'une seule et même communauté, c'est la communauté nationale. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétablira la paix et l'amour entre tous les citoyens de France et ne vous laissez pas emporter par des discours haineux que l'on peut entendre des deux bords.
Bon, l'imam Abdelali Mamoun est avec nous jusqu'à 11h. Vous avez des questions à poser à l'imam. Vous composez le numéro du standard de l'islam au présent. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, il y a du monde pour interroger l'imam en ce début d'année. On a Wassia qui est avec nous. Wassia, bienvenue.
Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour ce que vous faites pour nous.
Je vous en prie, ma soeur. Barakallahu fikoum. De bonheur, Inch'Allah. Bonne année, meilleurs vœux, Inch'Allah. Toute votre famille, Inch'Allah.
Barakallahu fikoum.
Le succès, de bonheur et de santé, Inch'Allah. Amin.
À vous aussi, Philippe, aussi, à votre famille aussi.
Merci, Wassia.
Et je souhaiterais, s'il vous plaît, comprendre, selon l'islam, qu'est-il dit au sujet des personnes, enfin des musulmans musulmanes qui, à cause par exemple de deux traitements à vie, ne peuvent pas se marier, on les refuse pour un mariage. Qu'est-ce qui va le, comment dire, est-ce que c'est une miséricorde le fait de rester célibataire dans cette situation? Est-ce qu'Allah va nous pardonner? Parce que j'ai entendu dire que quand on n'est pas marié, c'est pas bien.
Alors non, ma sœur, je vous rassure que le mariage n'est pas une obligation en islam, c'est une recommandation dans la mesure du possible. C'est-à-dire si on est possible et on est en mesure de se marier, le mariage est recommandé. Mais si on a en plus des contraintes, je ne sais pas, d'ordre médical qui vous empêchent de vous marier, ben écoutez, le mariage à ce moment-là n'est pas du tout... vous devez d'abord privilégier...
C'est la moitié de la religion ?
Non, on dit que la femme pieuse avec qui on se marie, c'est comme si que on avait reçu un don de la moitié de sa religion.
Ah d'accord, c'est pas le mariage, non, et la moitié de la religion.
Bah non, des fois ça peut être la moitié de la mécréance, parce que si on se marie avec quelqu'un de mauvais et qu'on est influencé par ce personnage, ce partenaire mauvais, bah il est loin d'être la moitié de la religion, il est au contraire l'autre moitié de la mécréance qui va nous égarer. Donc non, c'est le prophète dit man atahu Allahu zawjatan salihah faqad a'anahu ala shatr dini. Celui qui Dieu à qui accorde la moitié ou une femme pieuse aura obtenu la moitié, l'aura aidé à accomplir la moitié de sa religion. Mais non, c'est pas le mariage en lui-même, mais c'est bien de se marier. Il faut se marier si on est en mesure de se marier. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précise, ma sœur, pour nous expliquer de quoi il s'agit, de quoi vous parlez quand vous dites que
des traitements à vie.
Traitements, et alors je ne comprends pas les traitements, quel rapport avec le mariage?
En fait, voilà, quand j'en parle à un musulman qui irtobnait par exemple ou qui souhaite le mariage, le fait de lui dire que j'ai un traitement, un médicament à vie, c'est incompatible avec une grossesse. Donc je peux pas.
Vous ne pouvez pas avoir des enfants, c'est ça. Vous avez quel âge maintenant? Je peux connaître votre âge?
Oui, j'ai bientôt 45 ans.
Mashallah, Allahumma barak. Ben, je pense que déjà même une femme normale à 45 ans peut avoir des enfants, certes, mais ça reste encore
pas prudent.
C'est pas prudent et c'est même plus compliqué pour elle que si elle en avait 30 ou 25. Néanmoins, moi, je pense que dans votre cas, essayez de trouver un partenaire qui justement n'aurait pas d'ambition à travers son mariage d'avoir des enfants. Surtout s'il sait qu'il va se marier avec une femme de 45 ans. Une femme de 45 ans, elle a peu de chances de... il y a des chances, mais elles sont moins importantes pour avoir des enfants qu'une jeune femme. Donc, essayez de trouver un partenaire qui vous dit « Non, moi, ça y est, c'est bon, j'ai eu déjà des enfants. » Ou, tout simplement, « Je ne désire pas en avoir. Je veux, c'est quelqu'un avec qui finir ma vie. » Et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas trouver. Inch'Allah, il y a plein d'hommes dans votre cas qui sont des célibataires et qui cherchent l'âme sœur avec qui leur projet, c'est de trouver un compagnon pour terminer leur vie et finir leur vie ensemble. Et se combler de bonheur, faire des voyages, pas forcément consolider un foyer familial avec des enfants. Hein, mais tout simplement trouver quelqu'un avec qui elle va pouvoir cheminer spirituellement, enrichir ses connaissances et sa culture, voyager, etc., etc. Et tout simplement vivre le bonheur de l'amour. C'est pas interdit.
Et hein? Qu'est-ce qui est autorisé le Hajj en islam pour qu'une femme puisse trouver un musulman avec qui se marier?
Qu'est-ce qui est autorisé?
Qu'est-ce qui est autorisé licite, oui, en islam. Par exemple, je vous avoue que parfois je répondais à des annonces de l'émission de Philippe du lundi.
Ouais.
J'ai arrêté depuis plusieurs mois parce que c'est décevant. Ouais. Ça restait qu'un contact téléphonique, mais quand on voit les intentions des gens, c'est pas des bonnes intentions. Donc j'ai arrêté ça. Et...
Ma sœur, le problème, c'est que trouver la perle rare, c'est pas comme choisir un caillou ordinaire par terre, vous voyez ce que je veux dire.
Est-ce que, par exemple, un site de rencontre, par exemple, est-ce que c'est licite ou pas?
Si on sait gérer ce site, son inscription dans ce site, et s'assurer que les candidats sont des gens sérieux et non pas des aventuriers... pourquoi pas? À partir du moment où vous n'exhibez pas, vous ne commettez pas d'atteinte à la pudeur que doit avoir la femme musulmane, il n'y a aucune difficulté à se proposer au mariage, que ce soit à travers des sites ou à travers tout simplement son entourage ou en utilisant les membres de sa famille, des frères par exemple, qui vont proposer leur sœur à des amis à eux ou à des connaissances, etc., etc. Comment voulez-vous vous marier si vous montrez pas que vous êtes dans ce souhait là, dans ce désir de vous marier? Faut bien que vous le manifestiez, faut que les gens le sachent. Donc il faut que vous donnez les moyens de faire connaître votre envie de vous marier. Donc ça n'est pas interdit à partir du moment où vous respectez les règles de pudeur que doit et de réserve que doit avoir une musulmane. C'est-à-dire vous n'exhibez pas votre corps, vous ne tenez pas des propos indécents, etc., etc. Si vous êtes dans une logique respectable, il n'y a pas de difficulté à faire cela. Et bien entendu, dans une démarche pour ceux qui souhaitent s'engager avec vous et de leur préciser que voilà, vous êtes dans une démarche pour un projet de mariage, pour un projet de vie commune que jusqu'à la mort vous sépare, pas pour une aventure passagère.
Oui.
Hein, les aventures passagères, c'est le péché, c'est le haram. C'est pas autorisé ce genre de choses. Donc vous engagez, vous montrez en public, que ça soit par les réseaux sociaux ou autre, pour trouver l'âme sœur, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous allez être souvent déçu, mais Inch'Allah, un jour, à un moment donné, vous allez trouver le bon. Inch'Allah. Avec qui vous allez avoir des affinités, mais il n'y a pas Inch'Allah. De difficulté. Allez-y, faites-le. Vous êtes, de toute façon, vous êtes suffisamment âgé, vous avez suffisamment de maturité intellectuelle pour savoir, pour maîtriser, ne pas vous laisser emporter et dépasser les limites. Hein, il n'y a pas de difficulté en ce qui vous concerne.
Et j'ai une petite dernière question, s'il vous plaît. En fait, j'ai mon ex-belle-sœur et l'ex-belle-famille de l'un de mes frères qui dit des mensonges horribles sur mon frère pour lui arracher son enfant, pour qu'il ne voit pas son enfant.
D'accord.
J'aimerais savoir, s'il vous plaît, sachant que son ex-belle-famille, ils ont tous fait le hajj, j'aimerais savoir ce qu'il en est par rapport à l'islam quand on dit des mensonges horribles sur un musulman.
Écoutez, la diffamation est un des 7 péchés capitaux, ce qu'on appelle shahadat al-zour. Et ils auront des comptes à rendre yom al-qiyama sur leurs accusations qu'ils ont tenues à tort, simplement pour éviter que le père voit son enfant. Puis en plus il y a qat' al-rahim, c'est-à-dire le fait de mettre des causes qui vont rompre les liens entre un enfant et son père. C'est considéré comme un des 7 péchés capitaux. Ils en paieront les conséquences, c'est tout. Mais bon, je pense que dans votre cas, il faut bien étudier la situation en détail. Et là, j'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir répondre de manière claire dans votre cas en précis, mais je dis globalement que la calomnie est un des 7 péchés capitaux. Il y a un qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne, Dieu ne pardonne pas les sept péchés de capitaux que seulement sur un repentir sincère. Donc
vous
s'il meurt...
Oui. Vous pouvez, pardon, nous rappeler les sept péchés capitaux en
Islam? Eh bien, le polythéisme, hein, la sorcellerie, le non-respect des parents, abuser des biens d'un orphelin, pratiquer l'usure, pratiquer la calomnie, c'est-à-dire prononcer des accusations à tort, et le meurtre, l'assassinat, le fait d'enlever la vie à quelqu'un. Ça, c'est pour les civils et pour les militaires. Pour ceux qui sont dans l'armée, c'est le fait de fuir devant
la désertion.
La désertion, voilà. Mmh. Ça, c'est donc il y a deux versions. Mmh. Une qui est adressée aux civils, c'est le meurtre, et pour les militaires, c'est la désertion au moment du combat.
Bien, voilà. Wassia, merci pour votre appel. Alors, on accueille Sonia qui est avec nous. Sonia, bonjour et bienvenue.
Oui, salam alaikum tout le monde.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
J'appelle parce que, alors j'ai une première question, c'est-à-dire que quand on rêve d'un défunt, mes parents ils m'ont appris que quand on rêve d'un défunt, il faut sortir une sadaqa. Sauf que en me renseignant sur internet, j'apprends que c'est une bid'a.
Alors une bid'a, c'est un grand mot, hein.
C'est une innovation.
Non, écoute, c'est pas une innovation, c'est complètement absurde. Il y a, à travers le rêve, des rêves prémonitoires, des rêves que le prophète a cité comme étant un résidu de la révélation, un résidu de wahy, de révélation, qui est le 1/46e de la révélation, c'est le rêve prémonitoire. Ça, c'est authentique, d'accord ? Donc, quand on a un rêve prémonitoire, quelque chose qui est agréable, que l'on voit, par exemple, sur une personne, un proche, qu'on le voit, par exemple, avec un visage souriant, entouré de lumière, etc. Tout ça, ce sont des rêves prémonitoires qui annoncent une bonne nouvelle, que la personne décédée est, ce qu'il est en train de vivre, est quelque chose de bien. Ou au contraire, de le voir dans un état... et là, effectivement, il faut peut-être multiplier les invocations et les actes de bienveillance et de bienfaisance en ayant l'intention de lui accorder la récompense. Et notamment, la faire une sadaqa, c'est très très bien. Vous pouvez très bien... Mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une injonction que de faire une sadaqa quand on voit une personne en rêve? Ça, non. On ne peut pas l'inventer. Et là, on parle d'innovation, effectivement, quand on parle de règles normatives, c'est-à-dire de hukum shara'i. Comprenez? Ce n'est pas une règle normative que de faire une sadaqa quand on voit quelqu'un en rêve. Ça, effectivement, c'est une innovation que de penser ça. Mais que si moi, j'ai envie de faire une sadaqa parce que j'ai vu un tel dans mon rêve, et peut-être que c'est un rêve prémonitoire, qui Dieu me dit de penser à lui parce qu'il a besoin qu'on fasse des prières pour lui, parce que Dieu a envie de le combler de sa miséricorde, mais il veut que nous aussi, dans son entourage, on fasse des efforts pour faire des prières pour lui, des sadaqas pour lui, eh bien oui, pourquoi pas, faites une sadaqa et des du'a pour lui, il n'y a pas de difficulté. Même une umra, si vous voulez, ou un hajj, s'il ne l'a pas fait.
D'accord, ok. Et j'ai une autre question et après je laisse la parole aux autres. Je suis manager. Et en tant que manager, on m'invite. J'ai des collaborateurs qui vont par exemple me demander une évolution ou une augmentation salariale. Sauf que quand moi j'ai la réponse des supérieurs hiérarchiques, non, il n'est pas prévu ou non, mais il ne faut pas lui dire non, tu n'es pas prévu. Donc on m'incite plus ou moins à mentir. Et je voulais savoir dans la religion comment c'était considéré.
Écoutez, vous pouvez utiliser des mots du genre, au lieu de dire il n'est pas prévu, il est tout simple. Ah non, le fait de dire il n'est pas prévu, pour l'instant, vous ajoutez pour l'instant, en ce moment, à l'instant T où tu me parles, aujourd'hui la hiérarchie n'a pas jugé que tu méritais pour l'instant. N'a pas encore évalué que tu méritais une augmentation pour l'instant, et qu'il demandait de ta part que tu fasses plus d'efforts, etc. On peut toujours trouver une tournure de phrase qui permet d'éviter de tomber dans le mensonge, hein. Il faut éviter de dire des mensonges, faut pas dire des contre-vérités, mais vous n'êtes pas obligé de dire toute la vérité. Le fait de ne pas dire la vérité, ce n'est pas un mensonge. Ça, c'est une idée reçue.
Mais pourquoi pas dire la vérité dans ces cas-là ?
Mais non, mais parce que tout simplement, il y a peut-être une démarche managériale, c'est ça qu'on dit ?
Managériale.
Managériale, voilà. Qui, pour ne pas décourager et ne pas diminuer l'engouement, l'enthousiasme du salarié pour qu'il ne s'en sente pas défaitiste dans sa vie, qu'il attrape un coup de mauvais sang, etc. Eh bien, on n'est pas obligé de dire c'est faux que de dire voilà, moi je dois toute la vérité à mon entourage, c'est pas vrai. Ce que tu dois à ton entourage, c'est de ne pas mentir. Tu dois pas mentir.
Oui, bah ouais,
pas mentir, ça n'est pas forcément dire toute la vérité. C'est faux. Moi, je dis des fois même à mes enfants, à qui naïvement on leur dit, alors oui ou non. Bah écoute, j'ai pas envie de te répondre. Je suis pas obligé de répondre. De quel droit tu m'imposes à répondre à cette question? Oui ou non. J'ai pas envie de répondre. T'es qui toi pour me t'es un enquêteur, t'es mandaté par le procureur. Qui c'est qui t'a donné le droit de m'imposer de répondre à ta question? T'es un juge à qui je dois l'obligation de répondre à des questions qui relèvent de ma vie privée. J'ai pas envie de te répondre, ça me regarde. Donc il faut qu'on apprenne aux gens pour ne pas mentir. Par exemple, quand quelqu'un téléphone et demande à parler à un membre de ta famille qui est présent dans la maison et qui vous dit, dis-lui je suis pas là, c'est pas bien de dire ça. Dire tout simplement, il n'est pas dispo. Il n'est pas disposé à vous parler maintenant.
Ah non, bah non, entre il n'est pas disponible et pas disposé, c'est pas la même chose. Hein.
Non, il n'est pas là, j'ai dit. Là, le fait de dire il n'est pas là.
Non, mais disposé, c'est pareil. Hein.
Bah dispo, ça veut dire quoi dispo?
Disposé, ça veut dire qu'il n'a pas envie.
Non, il n'est pas disposé, c'est-à-dire qu'il est peut-être dans la salle
disponible.
De bain, il est peut-être aux toilettes, il est peut-être en train de. Il est en train de travailler ou discuter avec quelqu'un, il est en entretien, on ne sait pas. Bref, il ne faut pas mentir. On ne ment pas. Même sur ces petites choses-là, on ne prend pas l'habitude de mentir. Le prophète est clair sur cette question, il dit et le croyant qui continue à mentir jusqu'à que le jour du jugement dernier, il sera prescrit parmi la catégorie des gens des menteurs. Parmi les menteurs. Non, on ment pas. Je suis pas obligé de mentir. Il n'est pas disposé. À l'instant, il est occupé. Il peut pas. Il n'est pas disposé. Ou peut-être même pas. Il est même pas occupé. Il n'a pas envie de parler pour l'instant. Donc, subhanallah, pourquoi je dois mentir? Donc, il est important de ne pas mentir. Mais en même temps, on n'est pas obligé de dire toute la vérité. On n'est pas tenu de dire toute la vérité. Cette mentalité, je ne sais pas si elle est française, elle vient d'où, mais en tout cas, celle qui nous impose à dire toute la vérité, et il y a même dans des couples, si le mari ne dit pas toute la vérité à sa femme, ou si la femme ne dit pas toute la vérité à son mari, elle voit ça comme un mensonge. C'est pas vrai. C'est pas un mensonge. Je t'ai pas dit toute la vérité. Peut-être que j'ai oublié. Ça m'est sorti de l'esprit. J'avais idée de te le dire, mais voilà. Après, j'ai pensé à autre chose et j'ai oublié de te le dire. Donc, ça n'est pas. Faut pas créer des problèmes parce qu'on vous a pas dit toute la vérité. Par contre, si on vous ment, oui, vous avez le droit de vous révolter parce que on n'a pas le droit de mentir, même pour s'amuser, même pour plaisanter.
Bon, Sonia, vous ferez avec la réponse de l'imam. Hein.
Oui.
Hein, pour votre salarié qui attend son augmentation.
Chercher des tournures de phrases pour ne pas le blesser, pour ne pas le décourager. Votre rôle en tant que manager, c'est d'essayer de continuer à créer cet engouement, cette productivité chez votre salarié pour qu'il soit le plus dynamique, le plus engagé. Voilà. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de mentir pour ça. Voilà ce que je dis.
Merci beaucoup.
Vous en
prie. Sonia. C'était une bonne question.
Ouais, j'ai bien aimé.
Merci. Allez, d'autres questions à l'imam Abdelali Mamoun dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, c'est maintenant Fatiha que nous accueillons de Nanterre. Salam alaikum, Fatiha. Enchanté.
Salam. J'ai une question à vous poser. Voilà, j'ai perdu mon papa en mai 2019. Et on a fait une freda.
Oui.
Vous savez, le truc que
vous avez partagé.
Et voilà. Et on a vendu la maison principale. Et là, voilà, on a une autre maison. Et je voulais savoir, avec le freda, on peut faire tout. Est-ce qu'on peut se servir que de celle-ci, qui est datée de mai 2019, ou on doit, à chaque fois qu'il y a un bien, on doit en faire une autre?
Votre défunt père, c'est votre père qui est décédé, n'est-ce pas?
Oui,
clairement.
Oui.
Est-ce qu'il acquiert des biens après sa mort ou au fur et à mesure, ou bien il a acquis?
Non, c'est-à-dire la première maison, c'est une maison qui avait été notariée, donc avec ma belle-mère, on a fait devant notaire et tout. Et il s'est trouvé qu'on a une bataille juridique depuis maintenant, depuis ces 3 années là, bientôt 3 ans, au mois d'août. Et je voulais savoir, est-ce que Rib Hadith Al-Freda, vu qu'on a gagné le procès, est-ce que risque, c'est que avec cette Freda qu'on peut faire l'utilisation pour.
Alors, madame, vous allez chez le même notaire. Vous avez utilisé un notaire, n'est-ce pas? D'accord.
Oui, oui.
Eh bien, vous allez chez le même notaire qui va constater que le défunt est bien propriétaire à sa mort de ce bien, sur jugement du tribunal, etc., etc. Et il va procéder au même partage, la même manière qu'il a fait la première fois. Il n'y a pas de difficulté. Mais il faut utiliser un notaire, hein. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça tout seul.
Oui, d'accord, ça j'ai compris. Mais c'est toujours la même Freda qui va...
Quand vous dites Freda, c'est-à-dire le même partage, vous voulez dire?
Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours le même document qui...
Bien sûr. Bien sûr, c'est les documents. Alors, il y a les extraits de naissance, il y a le livret de famille, il y a le fait de définir qui est héritier, qui ne l'est pas, et quelle est la part de chacun. Tout ce procédé-là qui a été fait dans la première, dans le premier partage, bien entendu, il va être calqué pour faire le deuxième, la deuxième.
Bah oui, bien sûr.
Si vous utilisez le même notaire,
on ne fait qu'une Freda, on ne fait qu'une seule.
Oui, vous. Bah pourquoi vous allez en faire combien?
Je croyais qu'il fallait en refaire une autre et refaire le même dossier, et refaire une autre Freda, c'est pas la peine.
Bah ça, c'est faut voir avec le notaire, parce que là, ça relève des lois du pays. Et ça relève des lois du pays. Là, moi, je réponds aux questions qui relèvent des règles musulmanes. Mais dans les règles musulmanes, de toute façon, que l'Algérie aujourd'hui applique, le notaire va procéder dans le respect des lois du pays. Oui, donc, vous allez le voir avec votre document. C'est lui-même qui a fait la première fois la Farida. Il va la faire pour la deuxième partie. Il n'y a pas de difficulté.
Il va la faire pour la deuxième. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est bien le premier document
c'est ni le premier, c'est le notaire. Allez voir le notaire et c'est lui qui va gérer tout ça. Vous lui ramenez tout. Vous lui ramenez jugement, vous lui ramenez, lui, il va faire tout ce qu'il faut faire. D'accord? Vous inquiétez pas, il va faire le nécessaire.
Inch'Allah. Merci beaucoup.
Merci.
Philippe est revenu.
Parce que le samedi, on est enfermé, donc il faut aller chercher les invités. Enfin,
d'accord, c'est vrai.
Alors, on a Mounia qui est avec nous. Bienvenue, Mounia.
Bonjour.
Mounia, on vous écoute.
Wa alaikum salam, Mounia. Je vous écoute.
J'ai une petite question par rapport au pèlerinage. Est-ce que vous organisez cette année, est-ce qu'on a le droit d'y aller déjà, premièrement?
Alors, vous parlez du Hajj ou de la Umra?
Du Hajj. Non, le Hajj.
Alors, on n'a pas suffisamment d'éléments, du moins de situation sanitaire, qui nous permet de voir à long terme. C'est pas possible. On peut pas aujourd'hui savoir la situation sanitaire qui aura lieu au mois de juillet. Pour qu'on puisse dire de manière sûre et certaine que le Hajj aura lieu cette année. Par contre, si la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, il devrait y avoir le Hajj. Par contre, il n'y aura pas le nombre, il n'y aura pas le quota qui est accordé habituellement, par exemple, pour en France, 20 000 pèlerins. Il n'y aura pas 20 000 pèlerins de France. Il n'y aura pas les 45 000 d'Algérie. Il n'y aura pas les nombres qu'on avait l'habitude d'avoir, qui permettent d'aboutir à plus de 2,5 millions ou 3 millions de pèlerins venant du monde entier pour aller à la Mecque, donc pour accomplir le Hajj. Je ne pense pas que les autorités vont permettre une affluence aussi importante et avec alors que il y a encore énormément de dangers qui règnent et aujourd'hui autant de contraintes, parce que moi je reviens de la Umra, je peux vous dire qu'il y a des contraintes pour accéder à Al-Masjid Al-Haram et que c'est pas évident. Moi je vois mal comment est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait accueillir 2 millions de pèlerins, ça je pense pas. Par contre, comme l'année dernière, elle a évolué. Il y avait l'année d'avant 10 000 pèlerins, l'année dernière il y en avait 60 000. Cette année en 2022, il y en aura certainement au moins quelques centaines de milliers, ça c'est très probable. Si la situation reste telle qu'elle est.
On n'en sait rien.
Si là, apparemment, j'ai entendu parler qu'Omicron se rend lui-même une manière d'immuniser l'humanité, etc.
Mais comme on n'en sait rien, c'est pas la peine de dire.
Je dis rien.
Voilà.
T'as tout à fait raison, Philippe. On ne peut pas répondre à votre question, ma sœur. Vous comprenez pourquoi? La situation sanitaire, elle est totalement inconnue d'ici le mois de juillet.
D'accord. Et sinon, si elle évolue dans le mieux, est-ce que vous organisez quand même?
Oui, bien sûr. Bien sûr que je l'organise. Comme tous les ans, alhamdoulilah. J'en reviens là. J'étais pendant les vacances fin d'année. J'étais là-bas et ceux qui veulent venir avec moi pour le mois de février déjà, du 23 février au 5 mars, j'organise une seconde Umra. J'organise bien entendu les préparatifs pour le Hajj. Donc on va commencer, on va ouvrir les dossiers. On va ouvrir les dossiers, mais il n'y aura pas d'encaissement d'argent tant qu'on n'est pas sûr que le pèlerinage sera autorisé cette année.
D'accord. Bon, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous organisez une autre Umra, donc le 23 février, c'est ça?
Voilà, jusqu'au 5 mars. Et ça, c'est une omra, c'est pas le hajj. Et pour le hajj, on va commencer au mois de février l'ouverture des dossiers. On va commencer à enregistrer les demandes et les candidatures. Et moi, je vous invite à vous y prendre le plus tôt possible, car les premiers arrivés, premiers servis. S'il n'y a pas beaucoup de visas accordés, de quotas autorisés, eh bien, il vaut mieux être parmi les tout premiers à s'inscrire que d'attendre à la fin pour pouvoir s'inscrire quand il n'y aura plus de place. Parce que cette année, il y aura probablement une offre beaucoup plus inférieure que la demande.
Voilà ce qu'on pouvait dire en l'état actuel des connaissances qui évoluent tous les jours d'ailleurs. Oui. Mounia, merci pour votre appel. Pour tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions à l'imam Abdelali Mahmoud, il oui. reste une autre solution.
C'est de me téléphoner mon standard, le 0629.
Ah, mon standard.
Oui, c'est un standard. Oui, puisque c'est pas un numéro.
Téléphone.
C'est pas un numéro privé. C'est un numéro public que je donne sur Beur FM et même ailleurs. 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Je répète encore une troisième fois. 06 29 25 35 00 pour toutes vos questions et aussi pour ceux qui veulent s'inscrire pour la Umra ou le Hajj, etc. Eh bien, vous pouvez m'appeler sur le numéro que je viens de vous signaler. Et j'ai un numéro privé, Philippe, aussi, hein, vous savez, tu sais très bien.
Oui, mais vous voulez donner votre numéro privé?
Non, je ne donne pas le numéro privé. Je donne le 06 29 25 35 00. Voilà.
Une équipe de standardistes répond H24.
Non, c'est moi-même directement, il n'y a pas de
difficulté. Ah oui, donc c'est un standard de vous-même.
De moi-même.
Voilà,
c'est ce que je disais. Mais ça sonne toute la journée.
Bien, on retrouve samedi prochain, Imam Abdelali Mahmoud.
Inch'Allah, avec plaisir.
Pour l'islam au présent. Passez un bon week-end sur Beur FM.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beur FM.